Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoulia, bonjour. En Afrique du Sud, le bilan des violences s'est alourdi hier à 117 morts, alors que Johannesburg, la plus grande ville du pays, retrouvait un calme relatif après le déploiement de soldats et commençait à déblayer les gravats des destructions. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Dia. L'avocat de l'opposant béninois Joël Aïvo, arrêté au lendemain de l'élection présidentielle d'avril, a, selon l'AFP, dénoncé hier à l'ouverture du procès de son client un dossier vide. M. Aïvo, un professeur agrégé de droit âgé de 47 ans, est jugé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour, je cite, « atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux ». En Côte d'Ivoire, selon le ministère des Transports hier, au moins 25 personnes ont été tuées et une trentaine blessées mercredi dans un accident impliquant un autocar et un minibus à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Les autorités ont appelé les usagers à la prudence à l'approche de la fête musulmane de la Tabaski le 20 juillet, traditionnellement marquée par une intensification du trafic en pleine saison pluvieuse. Au Sénégal, les autorités ont de leur côté appelé hier à éviter les déplacements à l'occasion de cette fête de l'Aïd al-Adha qui entraîne habituellement d'importants mouvements de population à travers ce pays également. La raison ici, les records de contamination au COVID-19 enregistrés ces derniers jours. Le port systématique du masque est aussi recommandé. L'OMS a averti hier que les décès liés au COVID-19 ont connu une progression de 43% en l'espace d'une semaine en Afrique qui fait face à des pénuries d'oxygène et de lits en soins intensifs. La montée en flèche des cas s'explique selon l'OMS par l'insuffisance des approvisionnements en vaccins mais également à la lassitude du public face aux mesures de prévention et à une propagation accrue des variants. Lors d'une réunion hier à Abidjan, les pays africains ont plaidé auprès de la Banque mondiale pour obtenir de nouveaux plans d'aide afin de financer leur relance économique et un meilleur accès à la vaccination contre le COVID-19 pour rattraper le lourd retard du continent dans ce domaine. Les dirigeants africains ont souhaité pouvoir obtenir au moins 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2021 pour que le continent puisse mieux se reconstruire après la crise sanitaire. Trois régions éthiopiennes vont déployer des troupes pour soutenir les opérations militaires menées par l'armée fédérale dans la région du Tigré, en proie à la guerre depuis plus de 8 mois, ouvrant la porte à un possible élargissement du conflit. La marine royale marocaine a secouru entre samedi et mercredi 344 migrants en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, dont des femmes et des enfants, ayant eu des difficultés à bord d'embarcations de fortune en Méditerranée et dans l'Atlantique, selon l'agence de presse marocaine. Le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel ont reconnu hier leur divergence de vue sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 avant de réitérer leur engagement à faire front commun face à la Russie et à la Chine. La visite de Mme Merkel à Washington devait être avant tout une tournée d'adieu amicale, sa dernière en tant que chancelière, mais elle a été endeuillée par les inondations en Allemagne. Nous reviendrons sur cette catastrophe naturelle en Europe dans quelques instants. Le premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, a annoncé hier renoncer à former un gouvernement près de 9 mois après sa nomination et au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Les forces afghanes ont lancé vendredi une offensive pour reprendre la localité stratégique de Spin Boldak, près de la frontière avec le Pakistan, dont sont emparés mercredi les talibans, a annoncé le porte-parole de la police de la province de Kandahar. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sidoulia. suite de nos informations. En Afrique du Sud, les autorités appellent les populations à ne pas se faire justice elles-mêmes. Des personnes munies de barres de fer ou d'armes à feu se sont organisées en patrouille face aux émeutiers. Au moins 117 personnes ont été tuées. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le gouvernement craint que cela n'alimente davantage la violence. « Ne prenez pas la loi à votre compte », a exhorté hier jeudi la ministre par intérim Kabuzo Tshaveni, regrettant que certains brandissent des armes à feu pour répondre aux incidents qui ont lieu dans leur quartier. Le ministre de la police Bekki Sele avait noté la veille que des tensions raciales ont entaché ces troubles à Phoenix dans la banlieue de Durban. Dans ce township sur l'océan Indien, 20 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine. D'après la police, des affrontements entre riverains cherchant à protéger leur quartier et des pillards présumés sont à l'origine de ces troubles. Des vidéos d'une violence inouïe circulent sur les réseaux sociaux. Elles montrent des hommes d'origine indienne battre brutalement des hommes noirs à terre. Immobile sur le bitume mais conscient, un jeune homme noir avec des plaies béantes au bras et dans le dos semble gravement blessé. L'an dernier, l'Afrique du Sud a compté 1202 meurtres dans des raids menés par des groupes de vigilance selon les statistiques de la police.
Au Mali, l'abbé Léon Douillon, curé de Ségué, qui a été kidnappé avec 4 autres catholiques le 21 juin, a été libéré. L'information a été donnée mercredi soir par les autorités administratives et des responsables de l'Église catholique. Kadiatou Traoré a recueilli la réaction de l'abbé Kizito Togo, curé de l'église de Mopti.
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il a été libéré mardi 13 juillet. Donc, son collègue de Banyagara est allé le chercher dans les environs de Parou. Ça, c'est sur l'axe Banyagara. Et il est venu à Banyagara, il a passé la nuit là-bas. Et il est venu ici à Sévaré. Je l'ai vu. Et nous avons aussi un peu échangé. Je ne connais rien par rapport, en tout cas, aux conditions qu'ils ont posées là-bas. Mais ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, il avait plutôt bonne mine. Vu les conditions de détention, on peut imaginer, il avait plutôt bonne mine. Et il s'est surtout plein des moustiques et des serpents, mais pratiquement, pas d'autres choses. Je pense qu'il a été bien traité, peut-être eu égard aussi au fait qu'il était un responsable religieux. Dans tous les cas, il est libre, c'est ça qui est le plus important. Il est revenu à nous et donc nous rendons grâce à Dieu. On devait prier pour cela et cela aussi s'est réalisé. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour le retour de l'abbé Léon parmi nous. Mais nous savons que d'autres n'ont pas eu sa chance. Sœur Cécilia, depuis 2017, nous n'avons pas donc de ses nouvelles. Donc nous prions pour qu'elle soit libérée, ainsi aussi pour d'autres otages. Et nous prions pour qu'il y ait la paix au Mali, parce que sans la paix, le développement n'est pas possible. Que les gens puissent vraiment vaquer à leurs occupations, et ainsi le développement économique peut arriver. Mais quand on vit la peur d'être kidnappé, ça bloque pas mal de choses. Donc nous allons prier pour le pays, pour que la paix d'antan revienne au Mali.
En Europe, les pluies diluviennes et inondations ont fait au dernier bilan 59 morts en Allemagne et de nombreux disparus hier dans ce pays et dans d'autres nations européennes. Dans toute l'Europe, le dernier bilan était de 68 morts. La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas étant les autres pays les plus touchés. Rosine Mounezero fait le point.
C'est une catastrophe, une tragédie, a réagi la chancelière Angela Merkel en visite à Washington. Elle a promis que l'État allemand ferait tout pour aider les sinistrés. Dans la commune de Schild, au sud de Bonn, la crue d'une rivière a emporté 6 maisons. La police dénombre entre 50 et 60 disparus. Dans la localité de Mayenne, en Rhénanie-Palatinat, toutes les rues sont inondées. Dans la Rhénanie du Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne, deux pompiers sont morts tandis que deux hommes ont été noyés dans leur cave inondée. Plus de 135 000 foyers sont privés d'électricité. Les pluies ont fait gonfler les rivières, arracher des arbres, inonder routes et maisons. Beaucoup se sont réfugiés sur le toit des maisons et de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations de secours. Ces intempéries interviennent en pleine campagne électorale pour succéder à Angela Merkel. Le changement climatique est devenu le thème de campagne de tous les candidats, de la gauche à la droite.
La Minute Éco, John Linden.
La Côte d'Ivoire devrait bénéficier d'un financement de près de 200 millions de dollars de la part de l'Association internationale de développement. Ces fonds seront investis dans le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. La signature de l'accord a été annoncée par la Banque mondiale. L'Institut de financement du développement du Royaume-Uni, CDC Group, a annoncé jeudi la mise en place d'une facilité de financement de 50 millions de dollars au profit d'EcoBank International, filiale du groupe EcoBank. Selon Financial Afrique, cet appui devrait faciliter la reprise économique du continent, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, et générer entre 70 et 140 millions de dollars d'échanges supplémentaires par an. Le département américain du Trésor et l'ARS ont annoncé jeudi qu'environ 15 milliards de dollars ont été versés à des familles comprenant près de 60 millions d'enfants éligibles dans le premier paiement mensuel du crédit d'impôt pour enfants élargi. Les familles admissibles ont reçu jusqu'à 300 dollars par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 250 dollars par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les mesures anti-Covid-19 au JO de Tokyo fonctionnent, assure le président du Comité international olympique, Thomas Barr. Un sportif récemment arrivé au Japon a été testé positif au coronavirus ainsi que 5 autres personnes travaillant pour l'événement. Selon les organisateurs, nous avons pu voir et nous convaincre que toutes les délégations suivent les règles et soutiennent les règles, a déclaré M. Barr. Un état d'urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi. Dans la capitale japonaise, Tokyo a recensé plus de 1300 nouveaux cas de COVID-19 hier, dépassant les 1000 cas pour un deuxième jour d'affilée. Comment les délégations nationales se préparent pour rejoindre Tokyo dans ces conditions? J'ai joint pour vous à Cotonou, au Bénin, Fernando Essou, secrétaire général du Comité national olympique du Bénin.
Compte tenu des dispositions prises par le Comité d'organisation des Jeux olympiques Tokyo 2020, aucune délégation ne peut envoyer tous ses athlètes d'un seul trait. C'est pour cela que la délégation béninoise va partir à Tokyo par vagues successives. Et la première vague a décollé de Cotonou depuis hier et se trouve déjà sur place à Tokyo. Mais avant de partir, comme toutes les autres composantes de la délégation, la chef de mission et la responsable administrative se sont pliés à deux recommandations fondamentales. La première, c'est le téléchargement de deux applications, j'allais dire, Ocha et Cocoa, qui permettent de réaliser les formalités d'entrée au Japon selon les dispositions mises en place par le comité d'organisation. Ocha est dédié au COVID-19. 72 heures avant de démarrer du pays, vous faites un test COVID. Si le test est négatif, vous faites encore un autre test 48 heures après le premier. Si les deux tests sont toujours négatifs, vous activez maintenant Ocha et vous y introduisez toutes les données puisque Ocha sera le dispositif par lequel vous serez suivi à travers le Japon durant tout votre séjour.
Fernando Essou, secrétaire général du Comité national olympique du Bénin, joint à Cotonou. Dans la discipline de tennis, parlant des Jeux olympiques justement, l'Allemande Angelique Kerber, vice-championne olympique à Rio en 2016 et récente demi-finaliste à Wimbledon, a renoncé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Kerber soutient que son corps a besoin de repos après les semaines intenses. Médaille d'or en double mixte au JO 2012, Victoria Azarenka a aussi annoncé son retrait de la compétition, invoquant les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Kerber et Azarenka ajoutent leur nom à une longue liste de joueurs et joueuses de tennis ayant déclaré forfait pour les JO 2020. Roger Federer, Rafael Nadal, Dominique Thiem ou Nick Kyrgios chez les messieurs, Serena Williams chez les dames.
Merci, Yacouba. Le monde d'aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, le gouvernement a entamé le déploiement de 25 000 soldats dans des zones dites sensibles pour tenter d'empêcher la propagation de la violence à travers le pays. Le bilan officiel des heurts est passé de 72 morts à au moins 117. Reportage de Darren Taylor à Johannesburg, récit de Michel Joseph.
Des ministres flanqués de leurs gardes du corps parcourent les zones ravagées. Leurs beaux costumes contrastent avec les vêtements, souvent sales et en lambeaux, des gens qui les regardent. Des personnes qui, quelques heures seulement, avant l'arrivée des politiciens avec des platitudes et des promesses, avaient participé à la plus grande flambée de violence de l'histoire de l'Afrique du Sud démocratique. Les soldats affluent dans les zones menacées, les justiciers aussi.
Ne gaspillez pas vos munitions.
Des images envoyées à la VOA par un officier supérieur de l'armée montrent des citoyens privés ouvrant le feu avec des pistolets et fusils de chasse sur une foule qui essaie d'entrer dans une banlieue de la ville portuaire de Durban. La meute est armée de briques, de massues et de machettes. Les gens se sentent abandonnés par les forces censées les protéger et se font justice eux-mêmes.
Les pillards sont très intelligents, ils sont bien informés, ils regardent les nouvelles, ils doivent comprendre que ce soir, ils n'ont pas seulement affaire aux forces de l'ordre, ils ont aussi affaire aux gens comme eux.
De jeunes hommes dissimulant des armes sous le manteau patrouillent dans le centre commercial Maponya à Soweto, près de Johannesburg. C'est le seul à n'avoir pas été saccagé par les pillards.
Quand ils viendront ici avec des machettes, nous sortirons nos machettes. Quand ils viendront ici avec des armes, nos armes sortiront. Nous avons une puissance de feu suffisante pour tenir jusqu'au lever du soleil. Nous sommes prêts à mourir.
À Phoenix, un township au nord-ouest de Durban, peuplé de Sud-Africains indiens, au moins 15 personnes ont été tuées et la situation reste très tendue. Une foule a attaqué des maisons et les membres de la communauté indienne ont riposté.
We have lost 15 people here.
Le ministre de l'Intérieur, Bheki Cele, s'est rendu sur place après cette montée de tensions raciales.
Les personnes qui assassinent les autres doivent être arrêtées. L'impasse ici, c'est entre des Africains et des Sud-Africains d'origine indienne.
Les habitants de Phoenix disent avoir fait usage de la légitime défense. Ils insistent qu'ils n'ont pas tué les assaillants du fait de leur race noire, mais parce qu'ils craignaient pour leur propre vie. Plus tard, la ministre de la Défense, Kumbuzo Ntsavheni, a précisé qu'il y a eu 26 morts dans la région de Johannesburg et 91 dans la seule province du KwaZulu-Natal. La violence a poussé le roi Zulu, Misuzulu Kazwelithini, à rompre le silence.
It has brought great shame upon us all.
Cela nous a tous apporté une grande honte, dit-il. Je n'aurais jamais pensé que je verrais mon propre peuple devenir complice de l'incendie de notre pays. Tout a commencé lorsque l'ancien président Jacob Zuma s'est rendu aux autorités pénitentiaires la semaine dernière en vue de purger une peine de 15 mois pour avoir refusé de témoigner devant la commission enquêtant sur des allégations de corruption. Cette enquête divise profondément le Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid il y a 27 ans. Les partisans de Zuma sont descendus dans les rues, mais les manifestations se sont vite transformées en pillages. Le pays est aux prises avec un chômage endémique, de fréquentes pannes de courant et la pandémie de Covid-19 y fait des ravages. De nombreux Sud-Africains se demandent quand est-ce qu'un gouvernement de l'ANC de Nelson Mandela commencera-t-il à mettre en œuvre des politiques visant à réduire les inégalités et à lutter contre la corruption. Ces révoltes sont peut-être des signes avant-coureurs de ce que l'Afrique du Sud pensait avoir éliminé il y a 27 ans.
We're gonna do what we have to do.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, la justice a renversé mercredi la décision prise la veille de placer en résidence surveillée l'ancien Premier ministre et actuellement sénateur Augustin Matata Ponyo. Il est soupçonné de détournement de fonds publics en rapport avec le dossier de l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation sous l'ancien président Mobutu Sese Seko. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'avocat de Matata Ponyo, maître Laurent Onyemba.
Le procureur général près la Cour constitutionnelle a sollicité la levée des immunités du sénateur Matata pour l'entendre quant au dossier de paiement des créanciers dits de club de Kinshasa suite à un dossier de la zaïrianisation et que ces immunités ont été levées. Au bout d'une audition le premier jour, il est rentré chez lui. Le deuxième jour, après une audition, une confrontation avec le directeur général de l'OGDEP, qui est en fait un service qui s'occupe de la dette publique, il a été mis sous un régime de résidence surveillée. Et nous avons donc voulu démontrer au parquet que notre client n'a jamais un jour payé de créanciers fictifs. Sur réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, au service en question, notamment la DGDP aujourd'hui, hier l'OGDEP, il a été démontré clairement, avec soutènement juridique, que le sénateur Matata a payé des dossiers, fondamentalement des gens qui existent, parce qu'on a trouvé au dossier, chaque dossier, est constitué d'une procuration pour celui qui a représenté la société ou bien le créancier, un mandat dûment certifié et les identités respectives de toute personne qui a été payée. Et donc, le parquet a décidé justement de la main levée et donc pour les initiés, il est clair que quand on décide de la main levée, c'est qu'il y a trois conséquences. Soit le parquet fait tailler une autre conviction par rapport à l'évolution du dossier. Deuxième conséquence, c'est que les preuves sont insuffisantes. Et troisième conséquence, les preuves sont inexistantes pour charger l'inculpé. Et de ce fait, le parquet a décidé de lever cette mesure. Et donc aujourd'hui, le sénateur Matata est libre.
Mais nous avons vu qu'il continuera à répondre à la justice en homme libre. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on poursuit des auditions ou des enquêtes à ce sujet où le dossier est clos?
Nous n'avons pas été informés d'une quelconque démarche qui devait continuer. Et donc, à ce jour, nous attendons que le parquet tire les conséquences justement des éléments que lui-même nous a présentés, parce que ces éléments sont partis au parquet du fait du réquisitoire du procureur général. Et donc, à ce moment, nous n'avons ni une information sur la suite du dossier, encore moins un quelconque rendez-vous au parquet quant au dossier est irrelatif.
Donc, M. Matata Ponyo n'est plus en résidence surveillée.
Il n'est pas en résidence surveillée, il est libre à 150%, si on peut le dire ainsi.
M. Matata Ponyo est aussi accusé par l'IGF pour d'autres dossiers, notamment celui de Bukangalonzo, pour lequel le sénateur avait refusé d'élever ses immunités. Mais qu'en est-il exactement maintenant?
Tous ceux qui ont chargé Matata devront prendre le mal à patience, parce que les sénateurs ont décidé justement de ne pas lever les immunités des sénateurs Matata. Et donc à ce jour, nous estimons qu'il y a un break sur ce dossier.
Maître Laurent Onyemba, l'avocat d'Augustin Matata Ponyo, l'ancien premier ministre congolais.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Guinée, l'agriculture dispose d'importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités d'accélération de la croissance et de création d'emplois durables. Mais malgré ce potentiel, le secteur a besoin d'être modernisé. Les initiatives portées par le gouvernement guinéen et certaines entreprises privées ne manquent pas, nous dit notre correspondant Zakaria Camara. Il est allé à la rencontre de Tulip Industries, l'entreprise qui vient de présenter le premier drone agricole du pays.
Tulip Industries déploie ses ailes pour la première fois. Mohamed Saïdou Diallo, directeur IT de l'entreprise, nous présente son robot volant.
Bon, la machine technique, elle a des hélices qui sont faites en fibre de carbone. Il y a le système GPS qui permet de localiser la zone. Il y a aussi des batteries qui sont en lithium. Et il y a des pulvérisateurs qui sont ultra puissants. Il y a une pompe aussi dessus. Et il y a la mallette aussi qui est de dernière génération qui nous permet vraiment de bien manipuler cette zone et faire tout ce qu'on veut avec.
Cette technologie développée par le savoir-faire local s'utilise à l'aide d'un téléphone pour la collecte des données.
Okay. L'appareil, avant qu'elle ne bouge d'abord, elle est connectée à la télécommande. C'est la télécommande qui nous permet de manipuler le drone et en même temps de mesurer quel type de pesticides, les pompes, combien il faut asperger, combien de litres. Et en plus aussi, l'appareil, le téléphone, c'est une application qui se trouve dessus. Donc ces données sont récoltées par le drone et envoyées sur le téléphone.
Le drone doit servir, entre autres, au contrôle des cultures dans un pays où l'agriculture représente le principal pilier de l'économie rurale, mais un secteur largement sous-développé. Moutaka Keta, PDG de Tulip Industries.
Un drone, 10 litres, 100 hectares par jour. Lorsque les 10 litres vident, ça géolocalise le point où c'est fini, ça revient à la base, ça atterrit tout seul. Vous re-remplissez encore avec le liquide. Il décolle de là où vous êtes, il va là où le liquide s'était arrêté, et il continue le travail encore. Donc c'est un robot volant bien plus qu'un drone. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui au service de l'agriculture guinéenne. Donc aujourd'hui, on peut quand même se vanter d'avoir l'une des agricultures les plus modernes d'Afrique, sinon la plus moderne.
L'entreprise n'est pas à sa première innovation. Ce drone répond à un besoin, celui de doter la Guinée des solutions dans le domaine de l'agrotechnologie. Des solutions pour minimiser les risques liés aux travaux champêtres, selon Moutaga Keta, concepteur.
Alors, lorsque vous voyez un agriculteur qui doit, ou un agent agricole qui doit aller pulvériser avec la main droite, appuyer sur cette gâchette et parcourir des hectares et des hectares avec des serpents, des mygales, certains serpents, il suffit d'une minute et vous rejoignez Dieu. Ben, il fallait un système automatique quand même pour le faire. Alors, circuler sur le sol, un robot qui circule sur le sol, les sols sont caillouteux, quelquefois c'est difficile. Alors, et si on brossait tout cela à travers une machine qui pourrait disséminer soit les engrais, soit les produits phytosanitaires par exemple là-dessus. Donc on a pensé maintenant à l'idée du drone qu'on a assemblé.
Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables et 300 000 hectares de terres irrigables, la Guinée a un potentiel de croissance énorme. Mais le secteur reste encore largement sous-développé, avec un besoin impérieux de financement et d'innovation technologique. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane se prépare à célébrer la fête de l'Aïd al-Adha la semaine prochaine. Cette célébration est aussi communément appelée Tabaski ou fête du mouton. Mais cette année, les moutons se font rares et on dit les prix excessifs comparés aux autres années. Reportage de notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra.
50 000 moutons, il y en a.
Mais et si ça n'arrange pas?
Les petits moutons, même, tu touches même là. Petit bélier, mouton baoulé là, tu connais, non? Voilà, ça, on te parle de 200 000. Les grands-grands, maintenant, là, on te parle de 250, 300 pour aller. Bon, depuis le matin, là, on est là, on tourne.
Sibara Abdoul a du mal à se trouver un mouton qui correspond à sa bourse. Souleymane Diaby a eu plus de chance.
Chez eux, selon moi, c'est abordable. Puisque j'ai payé deux moutons, ça ne va pas deux semaines, c'était beaucoup abordable. J'ai payé un à 80 000 et puis un à 75 000. C'était beaucoup abordable par rapport à l'année passée.
Les prix des moutons dépendent du type de l'élevage et de la provenance des bêtes. Morta Sissé vend des moutons venus du Burkina Faso.
Ça a commencé il y a 75, il y a 85, il y a 100 000, il y a 150, il y a 125, même il y a 300 000.
Des prix très abordables à comparer au prix des moutons de Moussa Sidibé qui fait de l'élevage à domicile. Ici, le prix minimum est de 150 000 francs CFA.
Voilà, nous, ce n'est pas des moutons, on fait venir ça du Burkina, du Mali. Nous, on élève les moutons pendant 9 mois. Voilà, nous, on élève pendant 9 mois, bien traités, bien nourris à la maison.
Le marché de moutons n'est pas le seul à être un casse-tête pour les consommateurs. Aïcha Kone a quand même réussi à acheter des vêtements pour ses enfants, même si elle y a laissé des plumes.
Oui, il y a payé, mais c'est trop cher. Mais en tout cas, il me suis débrouillé pour payer.
À ses plaintes, les commerçants eux-mêmes en souffrent et se justifient. Aïcha Dambélé est commerçante.
Bon, avant, on prenait oignon à 25 000. Aujourd'hui, c'est devenu à 45 000. Souvent, on nous dit 50 000. Tout est devenu cher. Pomme était aussi chère. Vraiment, ce n'est pas de notre faute. De la manière dont on prend, c'est comme ça on vend.
Même si depuis quelques mois, la hausse des prix sur le marché est constatée par tous, à l'approche des fêtes, elle s'est fortement accentuée. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibunia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.